Bonjour et merci d'être présent à cette rencontre avec Naomi Novik. Je suis ravi d'accueillir au nom de la ville d'Épinal et des Imaginales. Vous savez maintenant, parce que certains d'entre vous sont déjà des habitués du festival, que nous aimons bien, en plus des conférences débats, des tables rondes, des cafés littéraires thématiques, comme nous en avions tout à l'heure sur les pirates ou d'autres sujets, nous aimons bien avoir des rencontres individuelles avec quelques-uns des auteurs auxquels nous tenons énormément, qu'une actualité nous amène à vouloir vous faire connaître un peu plus. Et en particulier, bien évidemment, nous accueillons systématiquement nos auteurs étrangers, nos invités étrangers, dans le cadre d'un café littéraire qui leur est entièrement consacré. Donc, nous allons passer près de 50 minutes avec Naomi Novik pour faire découvrir à ceux et celles qui ne la connaîtraient pas encore sa série Téméraire, la première traduite en France, est une série qui, pour moi, a le grand mérite de lier l'intelligence des situations, des personnages extrêmement construits, un humour réel et permanent, le roman historique et la période napoléonienne. On verra avec Naomi Novik pourquoi elle a l'air de la connaître aussi bien et pourquoi ça la passionne. Et puis aussi, évidemment, la fantaisie qui fait éruption avec des dragons un peu particuliers, comme nous le verrons. Le mieux pour découvrir un écrivain, c'est de le lire. Et là, en l'occurrence, grâce à Nicolas Barré, c'est de l'écouter.
Le pont du vaisseau français ruisselant de sang montait et descendait sur la mer agitée. Chaque coup pouvait aussi bien faire tomber celui qui l'assénait que celui qui le recevait. Dans le feu de l'action, Laurence n'eut guère le temps de s'étonner de la résistance qu'il rencontrait. Mais, même à travers la brume de la fièvre guerrière, dans la confusion des épées et la fumée des pistolets, il put remarquer l'angoisse extrême sur le visage du capitaine français, alors que ce dernier criait des encouragements à ses hommes. Cette angoisse était toujours présente peu de temps après, lorsqu'ils se rencontrèrent sur le pont et que l'homme lui remit son épée, bien à contre-cœur. Au dernier moment, sa main se referma à demi sur la lame, comme s'il avait l'intention de la reprendre. Laurence leva les yeux pour s'assurer que les couleurs avaient bien été amenées, puis accepta l'épée sans un mot, avec une simple courbette. Lui-même ne parlant pas le français, un échange plus protocolaire devrait attendre la présence de son troisième lieutenant, présentement occupé à sécuriser les canons dans l'entrepôt. Avec la cessation des hostilités, les Français survivants se laissaient pratiquement tomber sur place. Laurence nota qu'ils étaient moins nombreux qu'on aurait pu s'y attendre pour une frégate de 36 pièces et qu'ils semblaient malades, les joues creuses. Bon nombre d'entre eux gisaient, morts ou agonisants sur le pont, secouant la tête devant un tel désastre. Laurence toisa le capitaine français d'un air désapprobateur. L'homme n'aurait jamais dû accepter le combat. Non seulement l'amitié était surclassée en canon et en homme, mais son équipage était manifestement diminué par la maladie ou la faim. Par-dessus le marché, ses voiles se trouvaient tout emmêlées, non pas du fait de la bataille, mais à cause de la tempête qu'elle avait essuyée le matin même. Elle avait à peine réussi à tirer une bordée avant que le reliant ne se range contre elle pour l'abordage. À l'évidence, son capitaine était profondément affecté par la défaite, mais ce n'était plus un jeune homme pour se laisser emporter par sa fougue. Il aurait dû songer davantage à son équipage, au lieu de l'entraîner dans une action aussi désespérée. « Monsieur Riley, » dit Laurence, en attirant l'attention de son deuxième lieutenant, « chargez vos hommes de descendre les blessés dans l'entrepont. » Il accrocha l'épée du capitaine à sa ceinture. Il ne pensait pas que l'autre méritât qu'on lui rendît, même s'il l'aurait fait d'ordinaire. « Et faites passer pour Monsieur Wells. » « À vos ordres, monsieur, » dit Riley, en se détournant pour donner ses instructions. Laurence avança jusqu'à la rambarde pour examiner la coque et voir les dégâts qu'elle avait subis. Elle paraissait raisonnablement intacte. Il avait ordonné à ses hommes d'éviter les tirs sous la ligne de flottaison. Il en conclut avec plaisir qu'il ne devrait pas avoir de difficulté à ramener le vaisseau à bon port. Quelques mèches s'échappèrent de son catogan quand il releva la tête et lui tombèrent dans les yeux. Il les repoussa d'un geste agacé, laissant les traces de sang sur son front et dans ses cheveux décolorés par le soleil. Ajouté à ses larges épaules et à sa figure sévère, ce détail lui conférait, tandis qu'il inspectait sa prise, un aspect sauvage, très éloigné de son expression pensive, habituelle. Wells remonta de l'entrepont et se présenta devant lui. « Monsieur, » dit-il sans attendre qu'on l'interroge, « je vous demande pardon, mais le lieutenant Gibbs prétend avoir trouvé quelque chose d'étrange dans la cale. »« Vraiment ?» « Je vais aller jeter un coup d'œil. Veuillez dire à ce monsieur, » dit Laurence, en indiquant le capitaine français, « que je veux sa parole, pour lui comme pour son équipage, à défaut de quoi ils devront être confinés. » Le capitaine français ne répondit pas immédiatement. Il contemplait ces hommes avec une expression misérable. Il ne s'en porterait que mieux s'il pouvait demeurer en liberté dans l'entrepont. Et toute tentative de reprendre son vaisseau semblait impossible dans les circonstances présentes. Pourtant, il hésita, rentra les épaules, puis déclara d'une voix rauque, l'air encore plus misérable, « Je me rends. »
On ne le voit pas là parce que il y a la typographie, mais dans le livre, « Je me rends » est en français. La première chose, avant d'en dire au fond, c'est quel rapport avec cette langue, le français ?
I studied French. I studied the French language since I was 10 years old, and studied it through college and largely to read French literature. I'm just a huge fan of the language, the rhythm of it, the beauty of it, and French poetry, and Proust in particular. It's very, very hard for anybody. But I still love fighting my way through it.
C'est une langue que j'aime énormément. Je l'étudie depuis que j'ai l'âge de 10 ans et je l'ai étudié jusqu'à l'université. Tout simplement dans le but de lire la littérature française. J'aime énormément cette langue. Je trouve qu'elle est très très belle. J'adore son rythme. Principalement, je l'ai étudié pour pouvoir lire la poésie et également Proust. C'est extrêmement difficile, mais j'adore tailler mon chemin à la serpe à travers sa littérature.
Je me trompe, Naomi Novik, si je vous qualifie, c'est un compliment pour moi, intellectuel new-yorkaise.
You are an intellectual from New York, and to me it's a
compliment. Oui, je pense que oui.
Mais aussi, ça n'est pas contradictoire, et on va le voir, une romancière d'action, une romancière d'aventure, même si évidemment on y trouve des romans pétillants d'intelligence. Alors justement, on l'a senti, là on est dans une scène de bravoure, une scène d'action, vous avez bien compris, le héros, alors est-ce que c'est le héros, on verra après, parce qu'il y a aussi un dragon. C'est de l'écouter.
Le pont du vaisseau français ruisselant de sang montait et descendait sur la mer agitée. Chaque coup pouvait aussi bien faire tomber celui qui l'assénait que celui qui le recevait. Dans le feu de l'action, Laurence n'eut guère le temps de s'étonner de la résistance qu'il rencontrait. Mais, même à travers la brume de la fièvre guerrière, dans la confusion des épées et la fumée des pistolets, il put remarquer l'angoisse extrême sur le visage du capitaine français, alors que ce dernier criait des encouragements à ses hommes. Cette angoisse était toujours présente peu de temps après, lorsqu'ils se rencontrèrent sur le pont et que l'homme lui remit son épée, bien à contre-cœur. Au dernier moment, sa main se referma à demi sur la lame, comme s'il avait l'intention de la reprendre. Laurence leva les yeux pour s'assurer que les couleurs avaient bien été amenées, puis accepta l'épée sans un mot, avec une simple courbette. Lui-même ne parlant pas le français, un échange plus protocolaire devrait attendre la présence de son troisième lieutenant, présentement occupé à sécuriser les canons dans l'entrepôt. Avec la cessation des hostilités, les Français survivants se laissaient pratiquement tomber sur place. Laurence nota qu'ils étaient moins nombreux qu'on aurait pu s'y attendre pour une frégate de 36 pièces et qu'ils semblaient malades, les joues creuses. Bon nombre d'entre eux gisaient, morts ou agonisant sur le pont. Secouant la tête devant un tel désastre, Laurence toisa le capitaine français d'un air désapprobateur. L'homme n'aurait jamais dû accepter le combat. Non seulement l'amitié était surclassée en canons et en hommes, mais son équipage était manifestement diminué par la maladie ou la faim. Par-dessus le marché, ses voiles se trouvaient tout emmêlées, non pas du fait de la bataille, mais à cause de la tempête qu'elle avait essuyée le matin même. Elle avait à peine réussi à tirer une bordée avant que le reliant ne se range contre elle pour l'abordage. À l'évidence, son capitaine était profondément affecté par la défaite, mais ce n'était plus un jeune homme pour se laisser emporter par sa fougue. Il aurait dû songer davantage à son équipage, au lieu de l'entraîner dans une action aussi désespérée. « Monsieur Riley, » dit Laurence, en attirant l'attention de son deuxième lieutenant. « Chargez vos hommes de descendre les blessés dans l'entrepont. » Il accrocha l'épée du capitaine à sa ceinture. Il ne pensait pas que l'autre méritât qu'on lui rendît, même s'il l'aurait fait d'ordinaire. « Et faites passer pour Monsieur Wells. »« À vos ordres, monsieur, » dit Riley, en se détournant pour donner ses instructions. Laurence s'avança jusqu'à la rambarde pour examiner la coque et voir les dégâts qu'elle avait subis. Elle paraissait raisonnablement intacte. Il avait ordonné à ses hommes d'éviter les tirs sous la ligne de flottaison. Il en conclut avec plaisir qu'il ne devrait pas avoir de difficulté à ramener le vaisseau à bon port. Quelques mèches s'échappèrent de son catogan quand il releva la tête et lui tombèrent dans les yeux. Il les repoussa d'un geste agacé, laissant les traces de sang sur son front et dans ses cheveux décolorés par le soleil. Ajouté à ses larges épaules et à sa figure sévère, ce détail lui conférait, tandis qu'il inspectait sa prise, un aspect sauvage, très éloigné de son expression pensive, habituelle. Wes remonta de l'entrepôt et se présenta devant lui. « Monsieur, dit-il sans attendre qu'on l'interroge, je vous demande pardon, mais le lieutenant Gibbs prétend avoir trouvé quelque chose d'étrange dans la cale. »« Vraiment ? Je vais aller jeter un coup d'œil. Veuillez dire à ce monsieur, dit Lawrence, en indiquant le capitaine français, que je veux sa parole, pour lui comme pour son équipage, à défaut de quoi ils devront être confinés. » Le capitaine français ne répondit pas immédiatement. Il contemplait ces hommes avec une expression misérable. Il ne s'en porterait que mieux s'il pouvait demeurer en liberté dans l'entrepont, et toute tentative de reprendre son vaisseau semblait impossible dans les circonstances présentes. Pourtant, il hésita, rentra les épaules, puis déclara d'une voix rauque, l'air encore plus misérable, « Je me rends. »
On ne le voit pas là parce que il y a la typographie, mais dans le livre, « Je me rends » est en français. La première chose avant d'en dire au fond,
I've studied French. I studied the French language since I was 10 years old, and studied it through college and largely to read French literature. I'm just a huge fan of the language, the rhythm of it, the beauty of it, and French poetry. And Proust in particular. It's very, very hard for anybody, but I still love fighting my way through it.
C'est une langue que j'aime énormément, je l'ai étudiée depuis que j'ai l'âge de 10 ans et je l'ai étudiée jusqu'à l'université, tout simplement dans le but de lire la littérature française. J'aime énormément cette langue, je trouve qu'elle est très très belle, j'adore son rythme. Principalement je l'ai étudiée pour, étudié pour pouvoir lire la poésie et également Proust. C'est extrêmement difficile mais j'adore tailler mon chemin à la serpe à travers sa littérature.
Je me trompe, Naomi Novik, si je vous qualifie, c'est un compliment pour moi, l'intellectuelle new-yorkaise.
Oui, je pense que oui.
Mais aussi, ça n'est pas contradictoire, et on va le voir, une romancière d'action, une romancière d'aventure, même si évidemment on y trouve des romans pétillants d'intelligence. Alors justement, on l'a senti, là on est dans une scène de bravoure, une scène d'action. Vous avez bien compris, le héros, alors est-ce que c'est le héros, on verra après, parce qu'il y a aussi un dragon, ça se partage entre eux. Lawrence, un officier de la navale britannique, l'époque napoléonienne, et il vient de participer à la prise d'un vaisseau français. Et on a bien senti que l'équipage et surtout le capitaine sont abattus, qu'ils se sont battus dans des conditions très difficiles parce qu'ils avaient visiblement des raisons de le faire. Or, on vient de découvrir quelque chose dans la cage. Dans la cave, pardon. Pas dans la cage. Mais le lapsus est révélateur parce qu'il s'agit, on peut le révéler quand même, c'est les premières pages du roman, d'un œuf et d'un œuf de dragon. Et pas n'importe lequel, on l'apprendra peu à peu. Ça explique la résistance désespérée du capitaine français. Voilà, c'est le début du roman. Vous avez un personnage, Lawrence. Vous avez ce monde uchronique. C'est pas tout à fait le monde historique que nous connaissons. Et vous avez, dès le début, un œuf de dragon. Qu'est-ce qui vous a amené, Naomi Novik, à écrire un premier roman de fantasy? C'est votre premier roman, publié en tout cas en France, mais premier aux États-Unis. En choisissant d'un côté l'aspect historique, le roman napoléonien, puisque c'est la période de la guerre entre l'Angleterre et la France, tout particulièrement, et puis d'y mélanger des dragons.
I've always asked the question, and I don't. It's hard for me to answer because for me, I'm more. My answer is why not dragons? Pourquoi pas? I believe that this period, I was inspired to write this most immediately by. Have any of you seen the movie Master and Commander?
Yeah.
With Russell Crowe. And it was, I love that movie and read the series the Audrey Matron series by Patrick O'Brien. And it sort of reminded me of a long-standing affection that I had for this period of time. I read many biographies of Napoleon even before I started writing the series, since which I have read many more. I've always been fascinated by his story, just sort of a very compelling story, and by this era.
C'est une question à laquelle pour moi il est difficile de répondre, parce que la façon que j'aurais d'approcher les choses, finalement, ce n'est pas de me dire pourquoi j'ai mis des dragons, mais ce serait de dire plutôt pourquoi ne pas mettre des dragons. Je crois que cette période m'a beaucoup inspiré en partie en référence avec le film Master and Commander avec Russell Crowe. J'ai absolument adoré, j'ai lu ensuite la série de Patrick O'Brien avec ces personnages-là. Et ça m'a rappelé une affection que j'avais pour cette période qui vraiment remontait de très longue date. J'ai lu beaucoup de biographies de Napoléon, même avant de commencer la série des Téméraires, évidemment j'en ai lu beaucoup plus depuis. Et j'ai toujours trouvé que son histoire était absolument fascinante, et du coup cette ère également.
Pour situer là aussi, pour notre public, votre série, vous savez bien que dans la réalité historique, la guerre entre la France et l'Angleterre s'est passée en partie sur mer, et les Français n'étant pas capables de vaincre la navale britannique, ont joué le blocus sur le continent. Mais il y a quand même eu un certain nombre d'affrontements militaires. Comme le disait un humoriste français récemment, ces Anglais sont des gens bizarres, il disait, Trafalgar Square, Napoléon, Waterloo, pourquoi les Anglais choisissent-ils toujours des noms de défaites pour leur principale place? Et donc, dans ce monde, en tout cas, il y a des affrontements maritimes, mais ce n'est pas là l'enjeu central. L'enjeu central, ce sont des escadrilles de dragons. Voilà le monde qu'a imaginé Naomi Novik. Il y a bien des bateaux, on est bien dans une sorte de 18e siècle, une chronique. On retrouve plein d'aspects de la guerre entre l'Empire britannique et la France napoléonienne. On y verra même dans un volume Napoléon, on ne va pas révéler la scène qu'il y a parce qu'elle est trop drôle, elle est trop surprenante. Et ce monde-là, la grosse différence, c'est que ce sont donc des escadrilles de dragons qui s'affrontent. D'où l'enjeu des œufs de dragon, et d'où l'enjeu de domestiquer, on verra si c'est si simple, ces dragons. Voilà, j'en dis pas plus, je crois que j'ai brossé un peu le tableau. Le mieux peut-être pour poursuivre notre discussion, c'est d'en lire un autre extrait. Nicolas Barrès, vous voulez bien?
Alors, je vais situer un peu le passage, c'est quelques pages après ce que je vous ai lu. Et en fait, les membres de l'équipage ont tous placé leur nom pour tirer au sort celui qui va être là quand le dragon va sortir de sa coquille et avec qui il sera lié. La personne qui doit être là, en fait, le dragon ne s'en occupe pas et il va se focaliser sur le capitaine. Un bruissement de murmures se répandit tandis que les officiers et les matelots sentaient l'occasion s'envoler. Bientôt, Laurence devra abandonner et songer à confiner la bête afin de l'empêcher de s'envoler lorsqu'elle aurait mangé. Poursuivant ses explorations, le dragon passa devant lui. Il s'assit sur son arrière-train pour lui jeter un regard inquisiteur, et Laurence baissa les yeux sur lui, sans chercher à dissimuler sa tristesse et son désarroi. La créature cligna les yeux. Laurence eut le temps de remarquer ses prunelles bleu foncé, ses pupilles fendues, puis le dragonnet demanda « Pourquoi fronces-tu les sourcils ?» Le silence abattit aussitôt, et c'est avec la plus grande difficulté que Laurence se retint d'écarquiller les yeux. Carver, qui s'était sans doute cru tiré d'affaire, se tenait derrière le dragon, bouche bée. Son regard croisa celui de Laurence avec une lueur désespérée, mais il rassembla son courage et s'avança, prêt à s'adresser au dragon une fois de plus. Laurence fixa d'abord le dragon, puis le pauvre garçon livide et terrorisé, prit une grande inspiration et répondit à la créature. « Je te demande pardon, je n'en avais pas l'intention. Je m'appelle Will Laurence, et toi ?» Aucune discipline au monde n'aurait pu étouffer les murmures choqués qui circulèrent sur le pont. Le dragonnet ne parut pas s'en apercevoir, mais il se pesa la question un long moment avant d'avouer à contre-cœur « Je n'ai pas de nom ». Laurence avait suffisamment compulsé les ouvrages de Polyte pour savoir quoi dire. Il demanda sur un ton solennel « Puis-je t'en donner un ?» Le dragon, un mâle, car sa voix était assurément masculine, l'étudia de la tête aux pieds, prit le temps de gratter un point de son dos, apparemment sans défaut, puis répondit avec une indifférence affectée. « S'il te plaît. » Et Laurent se retrouva pris au dépourvu. Il n'avait pas vraiment réfléchi au harnachement proprement dit, sinon qu'il devait tout faire pour le faciliter. Et il n'avait pas la moindre idée de ce que pouvait être un nom convenable pour un dragon. Après un horrible moment de panique, son esprit établit un parallèle entre un dragon et un vaisseau, et il bredouilla « Téméraire ». Il songeait au beau vaisseau de ligne, au lancement duquel il avait assisté bien des années auparavant, la même allure souple et élégante. Il se maudit en silence de n'avoir rien trouvé de mieux, mais c'était dit, et au moins s'agissait-il d'un nom honorable. Laurence était de la Navy, après tout, et cela paraissait approprié. Mais ici, il interrompit le cours de ses pensées pour regarder le dragonnet avec une horreur croissante. Bien sûr qu'il n'était plus de la Navy. Il ne pouvait plus l'être avec un dragon. Et à l'instant où la créature accepterait le harnais de ses mains, tout serait joué. Le dragon, visiblement insensible à ses émotions, dit « Téméraire ?»« Oui, je m'appelle Téméraire. » Il acquiesça, geste curieux avec sa tête qui se balançait au bout de son long cou, et dit, sur un ton plus insistant, « J'ai faim. »
Voilà, c'est un moment extrêmement important. C'est un moment fondateur de la série. Vous avez bien compris que dans ce monde, pour maîtriser les dragons, il y a quelques règles à connaître. Et les règles de base sont que le dragon a besoin d'un pilote et qu'ils vont être liés à vie. Et que si le premier rapport entre ce pilote et ce dragon est raté, l'animal sera immaîtrisable, ça sera une sorte de dragon sauvage et il ne pourra pas être utilisé sur le plan militaire. À cette époque, on considère le dragon comme un animal peu intelligent, qui doit obéir. Justement, le nom téméraire annonce déjà que peut-être que les dragons sont moins sots qu'on ne le croit, simplement qu'on ne les a pas éduqués, et qu'il y a peut-être quelque chose à leur proposer pour en faire des dragons plus efficaces, mais aussi plus autonomes. Et à partir du moment où vous l'avez vu dans cette scène, l'émotion de Laurence, c'est que sa carrière est brisée. Il ne sera plus jamais l'officier de la Navy qu'il espérait être. Ça va être un drame pour sa famille, parce que cette arme terrible, qui sont les escadrilles de dragons, n'est pas très bien vue, comme souvent les armes nouvelles. Elle est assez méprisée par l'aristocratie britannique. Et à la fois, ce sont de fiers héros qui sauvent l'Angleterre, mais aussi des sortes de parias. Voilà tout l'enjeu de la série. Est-ce que Téméraire va pouvoir conquérir le cœur de Laurence? Est-ce qu'il va le consoler de ne pas avoir fait cette brillante carrière dans la Navy? Est-ce que Téméraire mérite vraiment son nom? Voilà toutes les questions que vous pouvez vous poser, mais évidemment, ce n'est pas moi qui vais y répondre, c'est Naomi Novik dans le livre. Première, sans révéler la suite, sans trop en dire, pour donner envie à nos lecteurs de découvrir la série, pourquoi vous avez focalisé dans cette scène le rapport entre un futur pilote, Laurence, et son animal, je mets trois paires de guillemets, autour d'une rencontre qui, quelque part, crée de la douleur chez Laurence. Ça semble mal parti entre eux.
Because I wanted, first of all, I wanted to highlight, to make it very clear to the reader, that being an aviator in this time is not a respectable career. It's... that it's not, Laurence is not happy, that this is a sacrifice Laurence is making. And it's sort of the foundation of Laurence's character, that he is the kind of person who will sacrifice his own advantage to what he sees as his duty to a cause of justice. And that's the touchstone of his character for me. If it was a wonderful, exciting moment for him to become a captain of a dragon, it wouldn't actually reveal as much about him. And I also wanted to establish the... Let me stop there.
Ce que je voulais mettre en avant, d'une part, c'est que la carrière d'aviateur dans cet univers-là n'est pas très respectée. Laurence n'est évidemment pas très heureux de se voir désigné capitaine d'un dragon, parce que ça lui coûte un sacrifice. Mais pour moi, c'était une pierre fondatrice du personnage. C'est que Laurence est capable de sacrifier ses avantages et tout ce qu'il faut pour accomplir ce qu'il perçoit comme son devoir envers une cause juste. Et pour moi, c'était vraiment la pierre fondatrice de ce personnage. Je pense que le moment n'aurait pas été aussi révélateur si pour lui, ça avait été quelque chose juste de merveilleux.
and to add a little more that for Temeraire, that it establishes also the position of dragons. The dragons are really viewed as a kind of mechanical, as a weapon, as a tool, and not as fully sentient beings, really, in this time.
Et aussi, c'était une scène intéressante à établir pour Téméraire, puisque ça permettait de mettre en avant la situation des dragons dans ce monde et dans cette société, c'est-à-dire qu'ils sont vus presque comme des machines, on les voit comme des armes, comme des outils, et pas forcément comme des créatures pleinement conscientes et capables de libre arbitre.
C'est des tout petits détails, on a remarqué que le dragon a les yeux fendus. C'est un signe de son origine, bien sûr. Pourquoi ce dragon, on découvre très vite qu'il vient d'extrême orient, pourquoi ce dragon peu conventionnel arrive-t-il dans votre histoire dès le début? Pourquoi vous n'avez-vous pas pris un dragon standard, puis ensuite, pourquoi tout de suite vous êtes parti sur un dragon extraordinaire? C'est pour nous dire qu'il va se passer quelque chose entre lui et Laurence, que ça va expliquer qu'il ne correspond pas au cadre habituel de ce qu'est un dragon, comme on vient d'expliquer.
So one of the things about the Temeraire series is that it's an alternate history as well as a fantasy. That I've changed the course of the Napoleonic Wars and that they are going to continue to change. And one of the real questions, of course, is why is the world anything like it was if there are dragons in it? And my own idea for the series was that this moment, Temeraire coming to the West, a Chinese dragon coming to the West, is the pivotal moment that actually changes the course of history in my world. And this is for me, the moment from which all the other changes trace back. It's not always visible in the books, but when I am writing, whenever I make a change to the historical record, I have a mental trail that leads back to this moment in some way. And that's why this meeting is sort of the key point of the series.
Ce qu'il y a concernant également pour ajouter sur la série de Téméraire, c'est que c'est une uchronie, un récit qui se place dans une histoire parallèle à la nôtre, tout en étant également de la fantasy. C'est-à-dire que je vais changer le cours des guerres napoléoniennes et que ça va changer de façon continue. Et je me posais la question pourquoi est-ce que ce monde est ainsi, c'est-à-dire proche du nôtre, s'il y avait des dragons? Et en fait, le moment où justement Téméraire arrive dans l'Ouest et qu'il est capturé par les Anglais, pour moi ce moment est véritablement le changement, le pivot qui va modifier absolument tout le cours de l'histoire à partir de ce qu'on connaît. Et moi, quand je fais des altérations à l'histoire des guerres napoléoniennes, par rapport à l'histoire qu'on connaît et qui est établie, toutes ces répercussions, toutes ces péripéties, j'ai comme une espèce de... c'est comme une chaîne que j'ai dans la tête et qui remonte jusqu'à ce moment d'origine qui est ce moment de changement. Et c'est pour ça que cette rencontre entre Téméraire et Laurence, c'est véritablement un point clé de la série.
Est-ce que c'est pas quelque part ce dragon, Téméraire, puisqu'on vient de lui donner son nom, est-ce que c'est pas l'arme secrète finalement de cette guerre?
Turns out to be a incredibly powerful dragon, partly because one of the aspects of this world is that the Chinese, who have been breeding dragons for much longer than in the West, and we find out have a different relationship with their dragons. Wow.
Napoleonic cannons.
Yeah. Yeah. It's appropriate.
For you.
Yeah. Okay. Sorry, what was
you say,
And
partly that's because the Chinese are able to breed more powerful dragons, that he has powers which can affect the course of the war. It's essentially, imagine the equivalent of gunpowder coming, guns being brought to the New World, a great warship. That's the power difference.
Alors, il s'avère que Téméraire va se révéler extrêmement puissant, Une des raisons pour cela, c'est que donc il vient de l'Est, il vient de Chine. Et dans ce monde, les Chinois ont élevé des dragons depuis largement plus longtemps que dans l'Occident. Et d'ailleurs, ils ont une relation différente avec les dragons, qu'on découvre au fur et à mesure de la série. Et donc cela leur a permis d'élever des dragons qui sont bien plus puissants. Et cette puissance va effectivement infléchir le cours de la guerre. Mais de la même façon, par exemple, que quand la poudre à canon a été apportée dans le Nouveau Monde, ou quand on a un énorme navire extrêmement puissant. Donc effectivement, il y a un côté arme, côté guerre.
Quand on voit le premier volume, donc téméraire, de votre série, je précise que c'est une série, bien sûr, qu'il faut suivre roman par roman, mais chaque roman est quand même un épisode de cet univers et de cette guerre. C'est ce qui fait qu'on peut les lire, certes à la suite les uns des autres, mais à chaque fois, on termine sur quelque chose, c'est produit, on passe à autre chose. Donc vous avez aussi souhaité ça, j'ai l'impression, dans vos romans. C'est à la fois une série et à la fois un épisode à chaque fois qui se clôt, qui rebondit sur autre chose. Je me trompe?
Yes, very much so. I wanted each book to both stand alone as well as form part of the whole. And for me, I sort of feel like I want there to be a sense of completion within each novel, but still, you know, like the war, a war is made up of battles. The series is made up of particular episodes and arcs.
Oui, tout à fait. Je voulais que chaque livre puisse tenir par lui-même, mais qu'également il fasse partie d'un ensemble plus vaste. Qu'on ait une impression de complétude à la fin de chaque livre, mais de la même façon, cette série se comporte un peu comme la guerre, c'est-à-dire qu'une guerre est faite de plusieurs batailles. Un roman policier ou un roman à mystère est constitué de plusieurs arcs narratifs et de plusieurs trames narratives et de plusieurs épisodes.
Votre premier volume, vous l'avez appelé Téméraire, vu ce qui s'y passe, y compris la façon dont l'establishment militaire britannique et la noblesse britannique va réagir au fait que Lawrence ne sera plus le capitaine de vaisseau qu'il va être, mais un capitaine de dragon. Est-ce que vous n'auriez pas pu l'appeler Orgueil et Préjugé?
As it happens, charity project in the U.S. I'm currently writing Pride and Prejudice in the Temeraire universe. I'm actually rewriting that story. So I very much wanted to have those elements. I love Jane Austen as well. She's definitely one of the primary influences of the series. And so I definitely wanted to have those. I wanted to have that element of sort of the comedy of manners in the books as well. Because to me, the wonderful pleasure is that you can have both the swashbuckling adventure with the swords and cannons and ships and dragons, and also the sort of smaller, more intimate stories.
C'est amusant parce qu'en fait, pour une organisation de charité, je suis effectivement en train de réécrire pour une courte histoire Orgueil et Préjugés dans l'univers de Téméraire. Oui, je voulais avoir ces éléments. J'adore Jane Austen, qui est une des influences primaires de la série. Et je voulais effectivement avoir également ces éléments un peu de la comédie de mœurs dans cette série. Mais en fait, ce qui est bien, c'est qu'avec en plus la fantasy, on peut avoir les deux. C'est-à-dire, je peux avoir les éléments d'action très excitants avec des dragons, des canons, des épées, des navires, etc. Mais je peux également avoir des éléments plus intimes et plus psychologiques.
Question aussi que je voulais vous poser, on a commencé à l'aborder au début de notre discussion, c'est sur justement votre intérêt, sinon votre fascination pour la période napoléonienne. Vous avez l'air de très bien connaître, je ne suis pas spécialiste du tout, mais j'ai lu un nombre de romans historiques bien documentés, j'ai lu pas mal de textes. Avant de m'occuper de littérature, je suis enseignante de lettres et d'histoire, donc je connais un petit peu, et je n'y ai pas vu en tout cas, même s'il y a des divergences avec la réalité, d'erreurs manifestes, même si c'est une uchronie. Vous avez visiblement une excellente connaissance. Vous avez travaillé sur de la documentation?
I've been interested in this era for a long time. I do also research each book, but in terms of the research that I have to do, I generally have to do much more research on the other cultures. For instance, I had to do much more research to learn about China during this time period, Africa during this time period, because I didn't really know that. The Napoleonic era in Western Europe, I was quite familiar with, just because I've been interested. I've definitely done a lot more sort of detailed research, investigating particular battles, sort of how particular tactics that were used as well. But so yes, I mean, I definitely do a lot of research. I try not to let the research overwhelm the story, which is sometimes a challenge because the research gets very interesting sometimes.
J'ai été cette ère à cette époque me passionne depuis extrêmement longtemps et alors c'est vrai que je fais pas mal de recherches pour chaque livre, mais en général surtout le gros de mes recherches concerne les autres cultures. Par exemple, il a fallu que je me documente sur la Chine à cette époque, sur l'Afrique à cette époque, qui étaient des choses que je connaissais extrêmement mal, alors que l'ère napoléonienne en Europe occidentale, j'étais quand même assez familière avec, tout simplement parce que ça m'intéressait. Par contre, en détail, il faut que je fasse des recherches un peu plus focalisées, par exemple sur cette bataille, les tactiques utilisées à cette époque, etc. Mais donc oui, en résumé, je fais pas mal de recherches. J'essaie de faire en sorte que la recherche ne prenne pas le pas sur l'histoire, ce qui est parfois assez difficile parce qu'on découvre des choses extrêmement intéressantes.
Justement, on peut peut-être apporter un autre élément qui est frappant dans votre série. On démarre bien sûr par une bataille navale. On découvrira à un moment donné une scène dans un autre roman que le premier où, sans en dire trop, Napoléon apparaîtra, vous ferez apparaître Napoléon, il y aura un échange avec certains personnages. Et vous n'allez pas rester limité à l'Angleterre. Chaque roman va nous entraîner dans un autre pays. Vous commencez à y faire allusion. Vous allez en effet nous emmener en Chine, nous allons nous emmener en Afrique. Bref, vous n'avez pas du tout une vision limité dans votre univers, mais vous allez nous faire visiter. C'est presque de l'exploration. On a l'impression que vous allez en quelque sorte faire de ce que faisait Azam le Navigateur, l'exploration de la découverte, et que votre lecteur, vous l'emmenez découvrir le monde. Et je rappelle quand même, tout le monde le sait, que vous êtes américaine, et que parfois, les écrivains américains, la société américaine, est quand même repliée sur elle-même comme centre du monde. Et vous êtes un écrivain totalement ouvert sur le monde, justement. Cette partie des intellectuels américains qui amènent dans leur livre cette ouverture sur le monde. Est-ce que c'est ça que vous avez voulu faire? Bien évidemment aussi, vous faire rêver, voyager, je suppose.
One of the main things that I wanted to do was to have different parts of the world have different relationships with dragons, different relationships between dragons and people. And I wanted to show that in the first novel, of course, we begin in a fairly familiar environment, one that hasn't, where dragons have not greatly changed the picture of society, which I think is a good way for the reader to start coming into this universe. And then by traveling from there with a person of this world, as our protagonist, Lawrence, through other nations as his experience expands, the reader gets to have their experience expand as well. So that was sort of a strategic goal behind it.
Une des choses principales que j'avais envie de faire dans cette série, c'était de visiter des différentes parties du monde pour montrer les différentes relations que les gens auraient envers les dragons et qu'il y aurait entre les dragons et les gens. Donc le premier livre démarre dans un environnement qui nous est relativement familier, où les dragons n'ont pas énormément changé le visage de la société telle que nous le connaissons. Et je pense que c'était une bonne manière pour le lecteur d'entrer dans cet univers. À partir de là, on voyage pas mal en compagnie des protagonistes vers d'autres nations. Et alors, à la mesure que l'expérience des protagonistes se diversifie au contact de ces nouvelles cultures, celle des lecteurs aussi. Et c'était effectivement un élément narratif stratégique assez intéressant pour moi.
And then after that, that's just something also that makes me happy, to see all these different parts of the world, to sort of go into them and to have Lawrence have his mind blown. I don't know if there's a good way to translate that. By being forced to experience different cultures and different societies as equal to his own, because of the power of dragons, societies that don't have guns in this world can still sort of meet industrialized societies on an equal military footing still at this time.
Ce qui me rend heureuse et qui me fait plaisir dans l'écriture également, c'est de voir différentes parties du monde et d'y aller et d'y emmener le lecteur. Et de faire en sorte que les repères de Lawrence soient totalement bouleversés et basculent à chaque fois. De le forcer et, à rencontrer des cultures différentes, des sociétés différentes, qui peuvent être légales à la sienne grâce aux dragons. C'est-à-dire qu'on peut avoir dans ce monde des sociétés qui n'ont pas de canon, qui ne connaissent pas la poudre à canon, et qui peuvent quand même être légales de sociétés industrialisées et de pouvoir se défendre de façon totalement égale sur un plan militaire avec elles. C'est quelque chose qui m'intéressait.
Vous avez bien compris que vous avez affaire donc à des romans de l'ouverture, qui a de l'humour, que c'est des romans pétillants en intelligence. Et là, je vois quelques lecteurs s'inquiéter, est-ce que ça va être des romans ennuyeux? Or, justement, vous avez été capable, tout en ayant ces éléments qui montrent votre ambition littéraire et culturelle, de faire une série d'aventures incroyables. On ne s'ennuie pas une seconde, il y a des rebondissements, il y a de la passion, il y a de l'aventure, il y a de l'humour. Enfin bref, on est dans, complètement dans le roman d'aventure. Comment vous faites, Naomi Novik?
I try and make and have fun when I write the books, and I try and bring everything that I've got to the table, and I like to, I'm not a very dark person. I'm sort of an optimist, really, and I think that that optimism is part of what sort of drives the books, that even if sad and sometimes dark things happen, I sort of believe in a kind of hopeful overall story, and that I like having sort of the part of the thing that I think makes a book, makes a story easy to believe, easy to feel like it's a real story, despite the dragons over there in the corner, is it sort of the details of daily life make sense to us. And you know, in our daily life we laugh at things, there are silly things that happen. It's not always, you know, grand drama and angst. That there are such moments, and there are moments of great drama and moments of great significance to the world, but at the same time there are just the ordinary details of life with a dragon. And without electricity.
Je crois que, tout simplement, j'essaie de prendre plaisir et de m'amuser à chaque livre. J'essaie d'apporter tout ce que j'ai dans les livres, de tout mettre sur la table. Je crois aussi que je ne suis pas quelqu'un d'extrêmement sombre, je suis plutôt un optimiste. Et je pense que ça se retrouve un peu, que ça alimente un petit peu les livres. Même s'il y a des moments tristes, même s'il y a des moments sombres, au total, l'histoire est quand même remplie d'espoir. Je pense aussi qu'une partie de ce qui permet de rendre ces histoires faciles à croire et que les faits se semblent réels, c'est que, bon, à part le fait qu'effectivement il y a des dragons à un moment dans un coin, c'est que les détails de la vie quotidienne ont du sens. Dans la vie de tous les jours, on rit, il se passe des choses un peu idiotes, on n'a pas toujours des moments extrêmement grandioses, très dramatiques ou pleins d'angoisse. Il y a effectivement ces moments-là, ils ont de la signification, ils ont de la portée, mais je pense que c'est également présent dans les livres. Il figure aussi les détails un peu ordinaires du quotidien, de ce que c'est que de vivre avec un dragon, et en plus quand on n'a pas d'électricité.
Je crois que quand on regarde la série progressivement, là on va regarder, on va lire un tout petit extrait, Nicolas Barret va nous le lire, un tout petit extrait du dernier volume, qui s'appelle donc Le Trésor des Incas, le seul que j'ai pas encore eu le temps de lire, que je vais lire avec beaucoup de plaisir cet été, parce que maintenant c'est vraiment par bonheur, c'est plus un travail. Vous allez voir que le dragon a évolué, parce que c'est ce qui est passionnant, c'est les rapports entre Lawrence et le dragon, c'est une bonne partie de l'humour qui traverse le roman, les romans. Et vous allez voir que par rapport au dragon des débuts, on lui donne un nom, tout ça, quand on a avancé dans la série, et ça va se constituer progressivement, le dragon a construit des rapports assez amusants.
Donc le bateau sur lequel voyage Lawrence, le dragon et d'autres dragons vient d'essuyer une tempête pendant 5 jours. Je ne sais pas qui peut avoir voyagé ainsi, sans croiser aucune prise et en essuyant des tempêtes pareilles, dit Téméraire qui dévorait une égine tout en volant sur place. Il n'était nullement pressé de retourner au navire. Il était persuadé de ne plus connaître la sensation d'être au sec ou d'avoir chaud avant des semaines. Le soleil pâle ne lui semblait pas à la hauteur de la tâche, tout juste bon à semer des couleurs vives parmi les nuages au ras de l'horizon. Et Téméraire se sentait trempé jusqu'aux os. Iskirka volait plus haut, en cercle rageur, crachant des flammes avant de traverser l'air qu'elle venait de chauffer pour se sécher. Téméraire l'aurait volontiers prié d'en faire autant pour lui, mais il répugnait à la solliciter. Son importance de cracheuse de feu lui montait suffisamment à la tête, sans qu'on aille la conforter dans son sentiment de supériorité. Y en a-t-il d'autres ? Demanda Kulengile, qui volait autour de Téméraire en lorgnant la légine avec intérêt. Il avait déjà englouti dans l'après-midi une vache, deux phoques et un chaudron entier de porridge de riz que Gongsu avait préparé pour eux trois, en espérant qu'il en resterait pour leurs équipages. Téméraire lui indiqua le banc de poissons, quoiqu'ils fussent à peine assez gros pour valoir la peine qu'on les pêchât. Kulengile prit de la hauteur pour examiner le banc, puis plongea en piqué et trempa la mâchoire inférieure directement dans l'eau. Des dizaines de poissons paniqués sautèrent frénétiquement entre ses crocs, tandis qu'ils remontaient. Mais il en conserva suffisamment pour les broyer avec satisfaction. Un filet d'algues pendu au coin de la gueule. Redescendre se coucher sur le pont, repu et sans entrave, avec la chaleur de la cuisine par-dessous, fut un véritable délice, malgré la houle qui demeurait forte et les vagues qui se brisaient régulièrement contre l'étrave, en les aspergeant d'embrun glacial. Téméraire leva une aile pour s'abriter autant que possible et croisa les pattes avant, pour ménager à Laurence un espace où s'asseoir et lui faire la lecture. « Ne me dis pas que ça se termine ainsi ?» demanda-t-il peu après, intrigué par une longue pause que marquait Laurence au beau milieu d'un poème. Mais Laurence ne répondit rien, et quand il se pencha sur lui, Téméraire vit qu'il s'était endormi au creux de sa patte, la tête en arrière et le livre sur les genoux. Téméraire poussa un soupir et regarda autour de lui, mais Sifo dormait également, pelotonné contre Kulengile. Sous un morceau de bâche, à côté de Deman. Et même Roland, qui aurait peut-être pu déchiffrer suffisamment de caractères pour lui lire la fin du poème, de deliner de la tête sur ses mathématiques. Kulengile soupira à son tour. « Je n'ai plus sommeil. »« Moi non plus, » déclara Iskirka. Même cet aveu ne suffit pas à réveiller Grandville couché devant elle dans son splendide habit en drap d'or, la tête posée sur un rouleau de corde. « Je suis sûr qu'il n'y a aucune prise digne de ce nom dans les parages, mais pourquoi ne pas en chercher malgré tout ?» Téméraire trouva le projet séduisant. Même Iskirka pouvait avoir de bonnes idées de temps à autre.
Voilà, des argots décalés un peu surprenants. Et visiblement, la façon dont Laurence a éduqué son dragon a des répercussions d'ailleurs au fur et à mesure des livres. Ça va pas être simple pour tous ces pauvres humains qui croyaient qu'en gros c'était un bétail de combat facile à gérer. L'intelligence est trop compliquée à gérer. Est-ce que justement dans ces romans, on voit que l'humour a une part importante? C'est parler d'optimisme face à la vie, le vôtre et celui de vos personnages. Est-ce que l'humour est aussi une façon de mettre à distance les moments difficiles dans vos romans?
Yes, I feel like there are that sort of in every glorious moment there's usually something diminishing it, and in every terrible moment there's usually something some spark of humor. And you know, one of the things, of course, is that a disaster for one person is frequently rejoicing for the others. And I try, you know, even though Laurence and Temeraire are my protagonists or my main point of view characters, I try to, you know, all the other characters, I try very hard to make them have their own independent motivation and not to make them sort of props for Laurence and Temeraire's story. They all have their own, they're all the heroes of their own stories, and it's just, I'm focusing on Laurence and Temeraire's story.
Oui, je pense que dans chaque moment fantastique de triomphe, il y a toujours un petit détail qui diminue un peu la chose, et dans chaque moment terrible et tragique, il y a une étincelle d'humour qui est possible. Aussi, ce qu'il faut voir, c'est que souvent, dans la vie, ce qui est un désastre pour quelqu'un est plutôt la cause de réjouissance pour un autre. En fait, bon, Laurence et Téméraire sont mes protagonistes, ce sont les personnages dont on voit le point de vue à travers l'histoire. Mais je pense aussi aux personnages secondaires et je m'efforce vraiment de faire en sorte qu'ils aient leur propre motivation, leur indépendance, que ce ne soient pas juste des accessoires pour mettre en valeur l'histoire de Laurence et Téméraire. Et donc ils ont leur propre histoire et leur propre destinée.
Vos romans, on commence à se rendre compte que ça peut passionner des tas de lecteurs. Je précise que quand même, pour vos deux premiers romans, vous avez décroché tout de suite un prix aux États-Unis.
I have to add that for your first two novels, you got awards.
Rappelez-nous quel prix.
Could you tell us about the awards you won?
I was very fortunate to win the John W. Campbell Award for Best New Writer, the Locus Award for Best First Novel, and the Compton Crook Award for Best First Novel. And it was nominated for the Hugo that I didn't win. But I lost Robert Silverberg, so I really can't complain there. So it was very exciting to have that kind of reception, to have them received well. And several of the books have been on the New York Times bestseller list. It's been very exciting to share them.
Oui, j'ai l'énorme chance et plaisir de recevoir le prix Campbell pour le meilleur nouvel auteur et le prix Locus et Compton Crook pour le meilleur premier roman. Et puis j'ai été finaliste des Hugo. Ah, je ne l'ai pas gagné. Mais en même temps, j'ai perdu face à Robert Silverberg, donc vraiment, je ne peux vraiment pas me plaindre. Les livres ont été extrêmement bien reçus et c'est extrêmement enthousiasmant. En plus, ils se sont retrouvés sur la liste des meilleurs romans du New York Times. Enfin, tout cela est vraiment très excitant et très enthousiasmant.
Et puis c'est justifié, je crois que vous avez commencé à le sentir. Je pense que ça va vous donner envie de découvrir si ce n'est pas déjà fait. Même s'il y a quelques fans qui imaginent déjà dans la salle. Je me demandais, finalement, quand vous aurez terminé, parce qu'on va être tous orphelins en volume, vous avez combien de volumes vous avez fait déjà aux États-Unis? On en a encore quelques-uns qui vont nous arriver.
In the US, and do you have any more in stock?
There are 7 books so far in the series. I am currently about a third of the way through book 8, which will be done by August, and book 9 will be done by the end of March, and that's the final volumes of this series. There may be more stories set in this universe, but the series is coming to a close with the end of the Napoleonic Wars in my universe, and that's I've always known from the beginning that I was going to end with the end of the Napoleonic Wars, and that's the arc, which I'm very excited about, sort of bringing it to an end.
Pour l'instant, il y a 7 livres dans la série. Je suis en train d'écrire le 8e, à peu près dans le dernier tiers, et il sera fini d'ici fin août, et le 9e sera fini d'ici fin mars, et ce sera le dernier livre de la série. Peut-être y aura-t-il d'autres histoires dans cet univers, je ne sais pas, mais en tout cas, cette série-là se terminera avec la fin des guerres napoléoniennes dans cet univers. J'ai toujours su que ce serait, d'ailleurs, la fin des guerres napoléoniennes serait le terme de la série. Mais je suis très enthousiaste à l'idée d'arriver à ce terme-là.
Je sens qu'on va encore subir une lourde défaite.
I'm not saying.
Je dirais rien.
Je le craignais. On aura la surprise.
I will say that it will not be the historical. The ending is going to be quite different from history.
Je peux quand même dire que ce ne sera pas la fin historique. La fin aura beaucoup de points de divergence par rapport à l'histoire.
En tout cas, je cherchais quelques mots forts pour conclure et finalement j'ai pris un petit écrivain américain qui a lu les romans. Il en a dit merveilleux, saisissant et terriblement divertissant. Je suis totalement d'accord avec lui. Il s'appelle Stephen King. Beau compliment.
Merci
beaucoup. Merci, Lamy. Et un grand merci bien sûr à Nicolas Barret pour ses lectures qui me permet d'écouter.